Donc, chers internautes, je vous propose de continuer notre parcours dans l'interprétation de la Bible selon la tradition de l'Église. Donc, continuons nos méthodes préparatoires à l'interprétation spirituelle. Après avoir vu la méthode historico-critique, voyons maintenant la deuxième interprétation préparatoire, qu'est l'analyse rhétorique. Donc, la rhétorique est l'art de composer des discours persuasifs. Du fait que tous les textes bibliques sont à un degré ou à un autre des textes persuasifs, une certaine connaissance de la rhétorique fait partie de l'équipement normal du lecteur de la Bible. La rhétorique classique distingue trois facteurs de persuasion: l'autorité de l'orateur, l'argumentation du discours et les émotions qu'il suscite dans l'auditoire. La diversité des situations et des auditoires influe par conséquent grandement sur la façon de parler. Il sera donc utile de nous demander à quel genre littéraire appartient le texte que nous lisons. Un poème et un texte historique ne se lisaient pas exactement de la même façon. Également intéressant est l'inventaire des figures de style et des artifices oratoires. En résumé, cette analyse rhétorique vise à attirer notre attention sur la capacité persuasive et convaincante du langage utilisé par l'auteur biblique. Concrètement, cette approche, à l'instar de la méthode historico-critique, nous aide à relativiser certains aspects peu crédibles ou scabreux de la Bible. Dans cette mesure, cette analyse rhétorique contribuera à nous débarrasser des réticences et préjugés qui peuvent nous encombrer et par là nous empêcher d'aller chercher l'interprétation symbolique et spirituelle du texte biblique. Tout comme la méthode historico-critique, cette approche nécessite un certain matériel, mais ici, point n'est besoin de faire beaucoup d'achats ou de consulter un grand nombre de liens Internet pour être au fait de l'analyse rhétorique. La lecture des exemples à aborder ci-après devrait amplement suffire à vous faire prendre conscience des éléments de rhétorique les plus utilisés par les auteurs bibliques. Ce faisant, vous serez suffisamment équipé pour gommer les principales aspérités culturelles tenant à la rhétorique et au style de la Bible. Si toutefois vous désirez compléter votre palette de connaissances dans ce domaine, je vous conseille de visiter ce site qui est indiqué sur la version web de cet enregistrement. Je vous donne quand même l'adresse oralement, www.rhetoricabiblicaesemitica.org. Passons maintenant aux exemples. Prenons dans un premier temps deux cas types tirés de l'Ancien Testament, pour ensuite nous pencher sur la pédagogie de Jésus dans les Évangiles. Tout d'abord, ouvrons notre Bible au livre des Juges, chapitre 15, versets 15 et 16, où il est dit que Samson tua 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il faut bien avouer que cet épisode manque de crédibilité et peut en conséquence nous dérouter et nuire à notre méditation de la parole. Mais que l'on regarde le verset 16. Celui-ci nous montre que cette victoire donna lieu à un refrain chanté. Nous ne sommes pas sans ignorer que l'une des caractéristiques des poèmes et des chansons est précisément le lyrisme. Il n'est donc pas surprenant de voir une exagération de l'événement dans le but de marquer les esprits. Il faut y voir ici une manière chez l'auteur de mettre en relief l'aspect spectaculaire et inespéré de la victoire de Samson. Celle-ci ne pouvait alors venir que de Dieu. De plus, n'oublions pas que les récits se rapportant à Samson appartiennent au genre épique. Or, l'épopée ne se distingue-t-elle pas justement par sa propension à exagérer les faits qu'elle relate, et ce dans le but d'accentuer le message qu'elle veut faire passer? Dans les histoires bibliques, le message se résume le plus souvent à montrer que l'aide de Dieu, sa main, est efficace. L'autre exemple, concerne le livre de l'Ecclésiaste dans sa totalité. Ce livre déroute principalement par son ton pessimiste. À ce titre, il contraste fortement avec d'autres livres bibliques et semble les contredire. De plus, ce pessimisme pris sans recul peut générer en nous une attitude à l'inverse de la joie chrétienne, sans espérance pour l'avenir. Le but de ce texte est-il de faire de nous des aigris? Là, il nous sera utile de nous rappeler que ce texte se situe dans la mouvance philosophique et qu'il est donc normal que l'auteur manifeste de la retenue. En outre, ce ton pessimiste et blasé est une manière pour l'auteur de marquer le lecteur en se faisant passer pour un sage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'écrivain biblique a choisi d'écrire sous le patronyme du roi Salomon, le sage par excellence. Qui plus est, l'autorité d'un personnage tel que Salomon contribue assurément à renforcer le poids du livre, ainsi que le message véhiculé par celui-ci. Vous avez là un bon exemple de l'utilisation de la rhétorique. Tout à l'heure, quand je parlais d'une des trois composantes de la rhétorique, en mentionnant l'autorité de l'orateur. Notons d'ailleurs que l'usage de prendre le nom d'un personnage illustre de l'histoire d'Israël ou d'un apôtre est très fréquent dans la Bible. Confère, par exemple, la deuxième lettre de Pierre ou la deuxième épître de Pierre, où visiblement ce n'est pas Pierre qui écrit, mais il prend Pierre comme patron pour donner de l'autorité à sa lettre. Donc si nous gardons ces remarques présentes à l'esprit, il nous est possible de dépasser ces artifices de style pour aller débusquer la substantifique moelle du message divin de ce livre qu'est l'Ecclésiaste, à savoir la nécessité, pour nous croyants, de prendre nos distances par rapport aux joies et aux peines causées par les circonstances extérieures de la vie pour mieux goûter la joie intérieure, fruit de notre foi en Dieu. Intéressons-nous maintenant à Jésus lui-même. Il n'est pas besoin de lire l'Évangile longuement pour s'apercevoir que le Christ est un grand pédagogue. Il est pleinement conscient non seulement de l'importance de son message, mais aussi de l'urgence de le transmettre. Or, dès qu'il y a une exigence de transmission, il y a forcément nécessité de prendre en compte la communication, pour employer un mot très en vogue aujourd'hui. Pour revenir à Jésus, Verbe de Dieu incarné dans un milieu précis et une époque précise, il est important de se souvenir qu'il s'est plié aux règles oratoires en vigueur dans la Palestine du 1er siècle. Quelles étaient-elles ? Tout comme les prédicateurs d'alors, la prédication de Jésus relève de l'oralité. Jésus ne cesse de parler. Le langage de l'oralité a ses règles propres. Jésus doit d'abord intéresser son public, se faire connaître, éveiller l'attention. Plus le public est nombreux, plus il convient de maintenir son intérêt. Alors Jésus n'hésite pas à recourir à des mots ou expressions chocs, ou bien encore à théâtraliser son discours. Dans ce dernier cas, il ne fit que reprendre une pédagogie courante chez les prophètes de l'Ancien Testament, qui mimaient leurs messages pour marquer davantage les esprits. Notons également que la rugosité du langage est aussi inspirée du langage des prophètes de l'Ancien Testament. Pour en revenir au mime, regardez entre autres Jérémie, chapitre 28, verset 1 à 17, où Jérémie se charge d'un joug pour symboliser l'oppression à venir de l'Empire babylonien. Reportez-vous également à Ézéchiel chapitre 12 verset 1 à 12, où ici Dieu demande à Ézéchiel de mettre en scène sa fuite en pleine nuit afin de montrer par avance ce qui allait arriver au peuple de Juda quand celui-ci sera déporté à Babylone. Dès lors, il n'est pas difficile de comprendre l'entrée triomphante de Jésus dans Jérusalem une semaine avant sa crucifixion. Il mimait en quelque sorte l'entrée triomphale du roi Salomon dans la ville de son père, confère premier livre des rois chapitre 3 et suivant. Quelques jours avant la Pâque, Matthieu 21, verset 1 à 10, il chasse avec fracas les marchands du temple, Matthieu 21, verset 12 à 17. Cette mise en scène se gravera dans la mémoire de ses auditeurs, au point qu'aucun des quatre évangélistes n'oubliera de consigner l'événement. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur ce dernier exemple des marchands du temple. Il est significatif pour nous faire comprendre l'utilité de l'analyse rhétorique, et ce, même quand il s'agit de récits de l'évangile. En effet, ce passage pourrait nous heurter. Nous imaginons mal Jésus faire preuve de violence. Mais si nous savons que ce geste s'inscrit dans un contexte, ou plutôt dans une mentalité, qui n'est pas la nôtre, à savoir que chaque geste a une valeur prophétique, chaque geste est un signe, confère les guérisons de Jésus, plus Jean chapitre 2 verset 18, où les Juifs eux-mêmes demandent à Jésus ce que signifie son action de chasser les marchands de temple. Donc si nous avons à l'esprit donc tout ce contexte, tout geste a une valeur prophétique ou une valeur de signe, il devient alors plus aisé de comprendre que Jésus ne faisait pas preuve de violence, et encore moins de colère haineuse. Au contraire, il visait à éveiller chez les auditeurs et spectateurs une prise de conscience salutaire sur le véritable rôle du temple, maison de prière. Il annonçait bien sûr aussi de nouveaux cultes qui seraient inaugurés par sa mort et sa résurrection, un culte où Dieu serait adoré en esprit en vérité. Confère Jean chapitre 4 verset 23. Il ne suffit pas de susciter l'attention, encore faut-il la maintenir. C'est ainsi que le corps de Jésus s'engage aussi dans l'œuvre du salut. Qu'il pleure sur la tombe de Lazare, qu'il se dépouille de ses vêtements avant de laver les pieds de ses disciples, confère Jean chapitre 13 verset 4. Qu'il se tourne brusquement vers Pierre pour le réprimander, vertement, confère Matthieu 16 verset 26, etc. La gestuelle et les mimiques renforcent le message. Parfois, le Nazaréen est un rien provocateur, et traite d'usurpateurs les dignitaires de son temps, d'engeance de vipères les pharisiens. On fait à Matthieu, chapitre 23, notamment le verset 33. Cette ardeur contestataire a le mérite de tenir son auditoire en haleine. Cette énergie n'est pas sans nous rappeler ce que l'Ancien Testament appelle la jalousie de Dieu pour son peuple, formule qui n'exprime pas autre chose que l'amour passionné de Dieu pour les hommes. Quand Jésus chasse les marchands du temple, l'évangéliste ne cite-t-il pas cette phrase de l'Ancien Testament « Le zèle de ta maison me dévorera » Confère Jean chapitre 2, verset 17, où le psaume 69, verset 10 est cité. Ainsi Jésus, en traitant les pharisiens d'engeance de vipères, etc., ne les insulte pas, mais selon les règles oratoires de son époque, y joue de l'emphase pour provoquer un électrochoc chez ses interlocuteurs. Aussi, bien que les pharisiens ne prissent pas les paroles de Jésus avec le sourire, ce qui n'est certes pas surprenant, ceux-ci ne pouvaient-ils pas se sentir insultés dans les mêmes proportions que nous, hommes du XXIe siècle, si ces mots nous avaient été adressés? Cette rugosité du langage et de la mentalité sémitique de l'époque du Christ nous échappe à plus d'un titre. Il faut absolument en tenir compte dans nos lectures de la Bible, évangile compris, sous peine de nous laisser arrêter par des détails verbaux. Citons encore le « femme » que Jésus adresse à sa mère ou à la Cananéenne, Jean chapitre 2 verset 4 et Matthieu chapitre 15 verset 28. Le mot « haïr » parfois est édulcoré dans certaines traductions en Luc 14 chapitre verset 26, donc ce mot « haïr ». Tous ces mots ne sont pas à prendre à la lettre, mais font partie de la rhétorique élémentaire de la Palestine de l'Ancien et du Nouveau Testament, rhétorique caractérisée, rappelons-le, par la rugosité aussi bien que par l'emphase verbale. Continuons notre analyse de la pédagogie du Christ parmi les moyens rhétoriques, parmi les moyens rhétoriques de Jésus, retenons aussi les procédés interrogatifs qui étaient d'usage dans l'Antiquité. Jésus pose des questions autant qu'il affirme. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu chapitre 6 verset 25 et suivant. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Matthieu chapitre 5 verset 46. Chaque interrogation stimule l'intelligence, relance le récit. Certaines questions appellent des réponses, d'autres ne sont que de pures figures de style. Tous sollicitent une prise de conscience pour stimuler l'attention, ou favoriser la décision. Dans le même registre, citons les paraboles abondamment utilisées par Jésus. Celles-ci remplissaient la même fonction de stimulation intellectuelle chez l'auditeur que le procédé interrogatif. Ce processus cumulatif, englobant entre autres questions rhétoriques et paraboles, ressort à l'évidence d'une composition littéraire. Elle signale également un tour pédagogique qui fait appel à la mémorisation. Un bon enseignant est un répétiteur. Les doublets, les redondances et les réitérations que l'on trouve dans l'Évangile ne participent pas seulement de la relance de la clause de style, confère la triple annonce par le Christ de sa mort et de sa résurrection, mais donc ces réitérations, ces redondances et ces doublets visent aussi à imprégner la mémoire. Dans l'art de convaincre, le Nazaréen emploie également une technique très hébraïque dite du parallélisme et de l'opposition, confère le psaume 1 par exemple où le sort du croyant fait contraste avec le sort du méchant. Mais chez lui, ce procédé de parallélisme peut tourner au paradoxe. Heureux les pauvres de cœur, ou alors il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ou encore aimez vos ennemis. Donc ces paradoxes ou ces formules paroxystiques et exacerbées bousculent les lieux communs, les préjugés. N'oublions pas non plus les discussions polémiques. Ces discussions polémiques possèdent une vertu pédagogique. Ces joutes oratoires sont une tribune. Chaque controverse met en relief les points litigieux et débusque les faux-semblants. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, par exemple. Marc chapitre 12, verset 17. Sans quitter le registre de l'oralité, le Christ utilise également du silence comme un outil pédagogique. Il se garde de faire connaître de quelle extraction est son être. Ce secret messianique intrigue. Il met aux aguets l'interlocuteur, ce silence intensifie l'écoute, intériorise le message. Comme on le voit, le matériel pédagogique de Jésus est simple. Il emprunte à son environnement proche, aux coutumes de son temps, aux nombreuses images tirées de l'observation de la vie quotidienne en Palestine. La pédagogie de Jésus est relationnelle et dialogale, jamais intellectuelle ni théorique et systématique. Il ne prodigue pas de cours magistraux pour communiquer un savoir ou une doctrine. Il cite fréquemment l'Écriture, mais aussi les proverbes profanes et les dictons populaires pour étayer ses instructions. Médecin, guéris-toi toi-même. Luc chapitre 4 verset 33. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu chapitre 6 verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6 verset 24. Etc. Ainsi, à travers ces exemples en rapport avec le Christ lui-même, la pertinence de l'analyse rhétorique apparaît pleinement. En effet, ne constitue-t-elle pas un outil précieux pour gommer certaines aspérités culturelles qui sinon pourraient bien se dresser comme une véritable muraille entre notre mentalité du XXIe siècle et le message profond des Écritures, celui-là même inspiré par l'Esprit-Saint. Il est maintenant temps de conclure cette section dédiée aux interprétations préparatoires que sont la méthode historico-critique et l'analyse rhétorique. Comme nous l'avons vu, ces deux approches ne sont pas tant importantes de par leur capacité à nous nourrir spirituellement que par leur aptitude à nous ouvrir les portes vers les eaux rafraîchissantes de la parole de Dieu. Elles sont en quelque sorte le sas de décompression par lequel il nous faut passer pour accepter le dépaysement culturel que représentent les textes, le dépaysement culturel que représentent des textes plusieurs fois millénaires. Ce sas, nous devons l'emprunter pour adapter notre esprit à une époque à une culture qui ne sont pas les nôtres, sous peine de nous laisser arrêter par des détails et des réactions anachroniques qui nous empêcheraient d'accéder au goût savoureux de la parole de Dieu. Au vu de ce qui vient d'être dit, il devient donc évident que ces deux méthodes exégétiques sont indispensables, mais non suffisantes. Elles devront être pratiquées en premier, avant toute autre herméneutique. Herméneutique voulant dire la science de l'interprétation. Donc ces deux méthodes devront être pratiquées en premier, surtout pour les textes anciens qui seraient susceptibles de nous poser des problèmes du fait de leur aspect choquant ou de leur prétendue caducité scientifique. Ce n'est qu'après cette pratique que nous pourrons passer aux interprétations dites spirituelles, délestées du poids de nos jugements moralisants et condescendants sur des périodes moins avancées, dans certains domaines seulement, que notre époque. Il faut enfin signaler que le recours à l'approche historico-critique et à l'analyse rhétorique ne doit pas être systématique, loin s'en faut. Il ne s'impose que dans le cas où les textes bibliques présentent effectivement des rugosités. Pour les textes dits faciles, il est tout à fait possible de faire appel aux interprétations spirituelles sans passer par le détour que sont en définitive ces deux méthodes. Aussi y a-t-il fort à parier qu'avec le temps, votre degré de familiarité à l'écriture, et donc votre capacité au dépaysement culturel, vous dispense de recourir de façon automatique et artificielle à ces deux clés de lecture préparatoire. Cette dernière remarque nous montre d'ailleurs, si besoin en était, l'importance de l'herméneutique spirituelle que nous allons développer dans les prochains enregistrements. Donc merci, chers internautes, de votre écoute, et à bientôt. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.